France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Christine Anger, réalisée par Sam Bakiast. Et à la technique ce matin, c'est Jean-Guy Lemège. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée aujourd'hui avec Marion Dupont en partenariat avec Le Monde. Bonjour Marion.
Bonjour.
Nous revenons ce matin sur la situation dans la région du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23 s'est emparé il y a quelques jours de Goma, la capitale régionale. Une avancée qui a provoqué la colère du président congolais qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles. La prise de Goma est-elle un tournant dans le conflit? Se dirige-t-on vers un affrontement direct entre le Rwanda et la RDC? Quelles conséquences pour les civils en première ligne de ces violences? Nous en discuterons avec nos invités. Joanne Tilouine, bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Africa Intelligence où vous suivez notamment l'actualité en République démocratique du Congo et nous serons rejoints par Christophe Vogel, chercheur sur les dynamiques de conflits en Afrique centrale, ancien enquêteur pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il sera avec nous depuis Dakar. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Tara Mirkovic.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Courrier des Balkans, vous revenez de Belgrade, en Serbie, où la colère gronde dans les universités et dans les rues du pays. Porté par les étudiants, le mouvement de contestation est l'un des plus importants depuis 68. À l'origine, l'accident de la gare de Novi Sad, survenu le 1er novembre dernier, où l'effondrement d'une partie du toit a provoqué la mort de 15 personnes, et ce alors que la gare venait d'être rénovée. Les manifestants y ont vu l'effet de la corruption et du dysfonctionnement des institutions, et c'est ce qu'il dénonce depuis plus de 2 mois. Mardi 28 janvier cette semaine, le Premier ministre Milos Vucevic et le maire de Novi Sad, Milan Djuric, ont annoncé leur démission. Est-ce que cela peut suffire à apaiser la colère de la société serbe?
Alors, en toute sincérité, non. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup relayé dans les médias, à la télévision serbe aussi. Mais en fait, les étudiants ont des revendications qui sont très claires, qui ont été exprimées de manière très explicite depuis déjà 3 mois. Et en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est nous, du moment que ces revendications n'ont pas été entendues, on restera dans nos universités, on continuera à bloquer les universités, à aller dans la rue. Et en fait, ça fait que c'est quelque chose en fait qui aurait dû arriver déjà il y a quelques mois en fait, de manière tout à fait logique, on va dire, après la chute du auvent de la gare de Novi Sad, qui n'a pas été fait, qui arrive longtemps après. Donc, on va dire, c'est une suite, on va dire, assez logique de ces événements-là, mais qui ne suffisent pas, en fait, à calmer la colère et qui en fait, d'une certaine manière, remettent de l'huile sur le feu et font que les gens vont de plus en plus, en fait, aller manifester et soutenir, en fait, ces revendications étudiantes.
Remettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que quand vous y étiez ce mardi, après l'annonce de cette démission, le sentiment qui dominait, il n'y a pas eu de soulagement ou de satisfaction suite à cette démission, plutôt de la colère?
Oui, alors en fait, les étudiants sont très organisés, ils s'organisent de manière assez rapide en fait. Donc là, par exemple, en ce moment même, ils font une marche en fait de Belgrade à Novi Sad, donc c'est une marche de 80 km qu'ils ont entamée hier. Donc là, ils sont à la moitié, ils partent en fait, ils ont encore 40 km à faire pour aller jusqu'à Novi Sad. Donc ils sont partis de la faculté d'art dramatique et ils vont aller jusqu'à Novi Sad. Donc il y a quelque chose de très symbolique aussi dans cette marche parce que les étudiants ont été attaqués en fait à la faculté d'art dramatique en novembre, alors qu'ils étaient en train de rendre hommage aux victimes de la tragédie. Et donc, ils se rendent jusqu'à Novi Sad, devant la gare, en fait, pour manifester. Donc, en fait, eux, les étudiants ont leur agenda, ils vont continuer à organiser ces actions qui sont de plus en plus soutenues en fait par une grande partie de la population. Et ça, on va dire, cette démission, c'est presque comme si c'était venu, c'est presque comme si c'était anecdotique en fait. C'est pas du tout quelque chose qui a été relayé, on va dire, à part dans les grands médias serbes qui sont beaucoup détenus aussi par le gouvernement. Mais c'est pas quelque chose qui va calmer la colère, on va dire, des étudiants et de la population.
Parmi les revendications des étudiants, il y a l'arrestation des personnes qui ont réprimé ou qui se sont attaquées aux étudiants. On parle de hooligans qui seraient proches du parti au pouvoir. Il y a la libération des manifestants arrêtés, la hausse du budget de l'enseignement supérieur. Et puis il y a aussi la publication des documents relatifs à la construction de la gare. Il faut rappeler en quoi cet événement, l'effondrement d'une partie donc du toit de la gare de Novi Sad, la deuxième ville du pays, a été un choc pour le pays. 15 personnes sont décédées lors de cet accident. Comment est-ce que la population, les gens que vous avez interrogés, interprètent cet accident? Ce qu'on comprend à vous lire dans vos reportages, c'est qu'il y a eu une politisation très rapide suite à l'effondrement de la gare.
Alors cet effondrement, en fait, une grande partie de la population le voit comme en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc le pays est en proie à un nombre de scandales en fait grandissant depuis ces dernières années. Donc il faut savoir que le président Vučić est au pouvoir depuis maintenant 13 ans. Mais les choses semblent s'être accélérées. Donc la corruption est partout, dans tous les pans de la société. Mais là, c'était une manière, en fait, de le voir, en fait, de voir que la corruption tue, en fait, que c'est pas juste un slogan, que ça arrive vraiment et que 15 personnes ont perdu la vie, en fait, dans cette tragédie. Et ça a ému une grande partie de la société qui, en fait, n'en peut plus. Et donc, c'était une manière, déjà, de descendre dans la rue, d'aller porter hommage, en fait, à ces personnes. Donc, tous les jours à 11h52, donc c'est à l'heure à laquelle s'est effondré, à l'heure à laquelle la tragédie a eu lieu, les gens se rassemblent en silence pendant 15 minutes en hommage à ces victimes. Donc ça, c'est un moment aussi qui est très fort où en fait on se retrouve dans une foule avec des milliers de personnes dans un des endroits les plus bruyants en fait de la ville, que ce soit à Novi Sad ou à Belgrade. Et on n'entend pas un seul bruit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a commencé déjà en novembre. Et à ce moment-là, en fait, des personnes ont été agressées physiquement. D'autres qui ont été ensuite arrêtées par la police. Et en fait, c'est tous ces événements-là, en fait, qui se sont enchaînés très, très rapidement et qui ont fait monter la colère. Et en fait, c'est le moment, en fait, où les étudiants ont commencé, parce que c'est des étudiants, en fait, qui ont été attaqués en premier. Donc, en solidarité à ces étudiants-là, il y a d'abord eu donc le blocage de la faculté d'art dramatique, et ensuite ça s'est propagé très rapidement. Et je pense que c'est ce moment en fait où on s'est rendu compte que en fait il y a une grande partie de la population, donc surtout des jeunes qu'on pensait désintéressés de la politique. Beaucoup d'entre eux aussi ont vocation à partir du pays. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui se sont tellement habitués, je pense, à cette corruption et à cette manière de, enfin, ce système qui ne fonctionne pas en fait, qu'en fait de voir en fait que cette mobilisation existe de la part d'une partie de la population qu'on avait oubliée en fait, la jeunesse, ça a donné beaucoup beaucoup d'espoir à tout le monde. Et c'est ça qui en fait a fait que tout s'est enchaîné très rapidement et que les gens se sont mobilisés et que maintenant en fait c'est inarrêtable. On verra comment ça va évoluer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça prend de plus en plus d'ampleur.
Le 24 janvier, une grève générale était organisée. Vous étiez à Belgrade à ce moment-là. Dans quelle mesure a-t-elle été suivie? Comment la ville s'est-elle transformée ce jour-là sous l'effet de cette grève générale?
Alors c'était très impressionnant. Il y a eu en fait deux cortèges qui sont partis de deux endroits distincts de la ville. Donc une au parti nord, dans la partie nord de la ville à Zemun, et l'autre au centre de Belgrade, en partant d'un endroit qui est aussi très symbolique. Donc c'est l'ancien état-major des armées bombardé en 1999, qui est aussi un édifice qui est très important pour les Belgradois, qui reste justement comme ça, un peu comme une plaie ouverte au centre de Belgrade, qui par ailleurs a été vendu au gendre de Donald Trump qui veut construire un hôtel de luxe là-bas. Donc c'est aussi, il y a beaucoup de problèmes.
C'est un point de crispation.
Voilà, c'est un point de crispation et c'est aussi c'est un des nombreux projets de construction comme la gare de Novi Sad qui sont aussi emprunts, enfin voilà, qui ont été faits de manière pas du tout transparente. Et voilà, donc ça déjà il y a eu ce rassemblement là donc dans deux parties de la ville à 11h52 avec bien sûr le
temps de silence.
Le temps de silence. Et ensuite, c'est vraiment en fait des marées humaines en fait qui se sont dirigées donc des deux côtés pour se rejoindre au niveau du pont d'un pont central en fait qui relie les deux rives de Belgrade, donc l'ancienne partie de Belgrade et le nouveau Belgrade. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de statistiques officielles, parce que c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup de rassemblements dans beaucoup d'endroits de la ville, mais beaucoup de personnes disent qu'il y a eu à peu près autant, voire plus de participants qu'au plus grand rassemblement qui a eu lieu le 22 décembre sur une des places principales de Belgrade, où il y avait à peu près 100 000 personnes. Donc il y a eu des dizaines de milliers, en tout cas, de personnes rassemblées à ce moment-là.
Et pas seulement des étudiants, vous décrivez les commerçants qui ont fermé leur devanture ce jour-là, et le peu qui ne l'ont pas fait se sont fait huer par la foule. Il y a les chauffeurs de taxi qui klaxonnent devant les manifestants, les retraités qui tapent contre des casseroles aux fenêtres des habitations. Ça veut dire que le mouvement est en train de s'étendre à d'autres strates de la société, ce n'est plus uniquement un mouvement étudiant.
Ouais, exactement, c'est quelque chose qui est maintenant, on le voit en fait, la plupart des gens en fait soutiennent les étudiants. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà tout le monde a été pris de court, je pense, par justement déjà par le fait que ce soit les jeunes en fait qui s'emparent de cette question là par leur organisation qui est exemplaire. Je pense que vraiment,
c'est-à-dire
ça, quand on le voit, donc déjà, il faut savoir que la manière dont les étudiants sont organisés, c'est vraiment un exemple de démocratie directe très radicale que eux-mêmes ont mis en place en fait au fur et à mesure. Donc eux, ils s'organisent par plénum. Donc en fait, il faut savoir que pratiquement toutes les universités, donc une soixantaine sur les 80 dans le pays, sont aujourd'hui bloquées, donc occupées par les étudiants qui dorment là-bas, qui laissent personne rentrer dans l'université, à part si on a donc le petit livret qui montre qu'on est étudiant. Et en fait, ils s'organisent par plénum, donc c'est des assemblées en fait, où toutes les décisions, donc ça va des décisions tout à fait pas banal, mais on va dire de l'organisation, en fait, comment on va organiser, les donations, par exemple, des citoyens, comment est-ce que... des choses de tous les jours, on va dire, à l'organisation vraiment de la grève générale, qui sont en fait des décisions qui sont votées dans ces assemblées, où chacun peut s'exprimer. En fait, chacun parle à un temps de parole devant l'assemblée. Il n'y a pas de dialogue, donc on s'adresse à l'assemblée tout entière. Chacun peut répondre. Et en fait, donc ça, c'est aussi déjà pour les étudiants, pour avoir parlé à plusieurs étudiants de plein de facultés différentes, pour eux, c'est aussi un exemple. En fait, c'est eux, ils apprennent. En fait, c'est un processus d'apprentissage, et ils se rendent compte à quel point ce mode de fonctionnement est très efficace, en fait. Et ça, on le voit aussi dans les manifestations, où on voit à quel point ils sont super bien organisés. Même si c'est des choses, par exemple, la grève générale a été organisée en quelques jours, mais eux, en fait, avaient tout un tracé, toute une organisation de comment faire passer les gens sur le pont, en faisant passer des petits groupes de gens. Enfin, c'était... Il n'y a pas eu de débordement. Et ça aussi, il faut le mentionner, c'est très important. C'est des rassemblements qui sont non violents. Et malgré, en fait, des pressions des hooligans ou des personnes en tout cas qui sont des individus en fait qui sont payés par le gouvernement pour venir créer un peu de désordre, en fait les étudiants restent calmes. Et je pense que c'est ça en fait, de voir à quel point ils sont à la fois organisés, qui savent exactement ce qu'ils font, ils ont ces revendications qui sont très claires, qui ont été donc explicitées il y a déjà plus de 2 mois, et elles ne changent pas, ces revendications. Le fait qu'en fait ils s'adressent directement aux institutions et pas à Vučić, je pense que c'est ça qui est très qui était très étrange, mais aussi
Vučić, donc Aleksandar Vučić, oui. Le président actuel de la Serbie. D'ailleurs, vous expliquez dans votre reportage que ce qui est frappant dans ce que vous disent les uns et les autres au cours des manifestations, c'est que ils ne demandent pas, ils ne réclament pas la chute du gouvernement. Ils veulent, disent-ils, des institutions qui fonctionnent.
Oui, c'est ça, et c'est ça la force en fait de ce mouvement étudiant, c'est qu'il s'adresse pas directement à Vučić. Donc il y a aussi, je pense, quelque chose qui est très frustrant pour Vučić dans ce mode en fait de communication politique, c'est que lui, en fait, il a l'habitude déjà, il a la main mise sur tous les médias, il a beaucoup de temps de parole à la télévision, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi se victimiser en permanence. Et là, en fait, personne ne lui parle directement. Et là, quand vous avez mentionné, du coup, par exemple, les slogans qu'on peut voir dans les manifestations, on voit souvent ce slogan, en fait, on t'a rien demandé. Et donc, il y a vraiment ça, et c'est pour ça que, par exemple, quand il y a cette démission, en fait, les étudiants étudiants disent non, nous on a quatre revendications très claires, donc qui sont la publication de la documentation, enfin vous les avez mentionnées, qui en fait s'adressent directement au fonctionnement des institutions. Et ils disent, nous, au-delà du régime, en fait ça nous importe pas en fait qui est à la tête du gouvernement. Ce qu'on veut, c'est que ces institutions qui sont gangrénées par la corruption depuis des années fassent leur travail et que la justice fasse son travail.
Le président Vučić, face à ce mouvement, hein, qui, on le rappelle, dure depuis plus de deux mois, semble hésiter dans la réponse à apporter. Il y a eu des tentatives de décrédibiliser le mouvement, de dire qu'il était instrumentalisé par des forces étrangères. En même temps, il a aussi dénoncé les violences dont avaient été victimes certains étudiants par des personnes armées. Et là, récemment, il a annoncé la baisse des frais d'inscription à l'université. Comment interpréter cette hésitation entre répression et puis apaisement ? Est-ce qu'il n'a pas choisi encore la manière dont il allait répondre à ce mouvement ?
Je pense qu'il ne sait pas en fait comment répondre. Je pense qu'il essaie plusieurs stratégies en fait et qu'il se rend compte que en fait rien ne marche vraiment. Et en fait c'est vraiment parce que ces étudiants ont ces quatre revendications et ils vont pas lâcher l'affaire et aussi qu'ils sont il y a cette organisation qui est non violente. Et en fait je pense que il a essayé donc d'abord en envoyant il y a eu ces heurts avec la police, mais ça c'était au tout début. Ça la police en général ne touche pas les manifestations pendant les rassemblements, mais il y a eu ces personnes armées qui ont attaqué des étudiants. Il y a eu des voitures aussi qui ont foncé dans la foule, qui ont blessé, il y a deux jeunes filles qui ont été blessées la semaine dernière. Mais en fait, ça fait, encore une fois, mettre de l'huile sur le feu, en fait, et les gens réagissent très rapidement, en fait, à chaque... Enfin, les violences envers les étudiants. Par exemple, là, pendant la grève de vendredi, il y a eu justement une voiture qui a foncé dans la foule, qui a renversé une fille qui était en charge de la sécurité. Et immédiatement, en fait, une grosse partie du cortège a fait demi-tour et s'est retrouvée devant la radio-télévision serbe pour réclamer déjà qu'on couvre ces informations. Donc il y a la chaîne principale publique de télévision qui en fait ne couvrait pas du tout, déjà ne couvrait pas les manifestations et n'a pas couvert aussi cet incident-là. Et en fait, il y a une réactivité au niveau, pas seulement des étudiants, mais aussi, après il y a les réseaux sociaux, donc ça, en fait les gens réagissent super vite et en fait ils se rendent compte que ça ne marche pas. Donc après il fallait condamner les violences, ensuite il y a eu un contre-meeting, donc...
Alors le contre-meeting, ouais. Justement, le lendemain de la grève générale, une organisation était organisée à Jagodina, à 140 kilomètres au sud de Belgrade. Pourquoi cette ville ? Et est-ce que ce contre-meeting a permis de rassembler les foules, donc en faveur du gouvernement ?
Alors c'était le même jour que la grève générale, donc le soir. Donc il y a eu justement une partie aussi d'ailleurs du cortège qui a essayé de bloquer en fait les bus qui partaient de Belgrade pour Jagodina. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais Jagodina, je pense que c'est surtout une question géographique. C'est une ville qui est au centre du pays. Et beaucoup de personnes sont venues en fait en bus. Donc ça, c'est une des stratégies de Vučić qui a été utilisée aussi pendant les élections législatives de décembre dernier, donc décembre 2023, qui ont été volées, en fait, où beaucoup de personnes ont été ramenées de plein d'endroits de la Serbie, mais aussi de pays voisins, donc notamment de Bosnie, mais même parfois de Bulgarie, en fait, pour montrer leur soutien. Donc, en fait, ce contre-meeting à Jagodina, ça, bien sûr, ça a été beaucoup relayé sur les chaînes de télévision privées. Il y a eu déjà beaucoup moins de monde, par exemple, qu'à la grève générale. Il y a eu, on compte à peu près 15 000 personnes. Et une grande partie de ces personnes-là, en fait, sont... déjà, c'est pas qu'elles soutiennent forcément le président Vučić, mais beaucoup reçoivent aussi des menaces ou des pressions en fait pour venir à ce contre-meeting. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas vraiment pourquoi elles sont là. Enfin, on le voit aussi, il y a eu des entretiens. En fait, ils ont été ramenés là parce qu'on leur a dit, on vous paye un billet aller-retour pour Jagodina, on vous donne 100 euros, voilà. Venez pour soutenir le président et c'est tout en fait. Donc c'est ça pareil, on l'a vu, ça a pas trop marché. Je pense que c'est encore une des stratégies qu'il essaie de tester, mais en fait là il sait pas trop quelle réponse apporter.
Ce qui ne signifie pas que le président Vučić n'ait plus de soutien populaire. Ce soutien, il existe. Est-ce que c'est une ligne urbain rurale qui se dessine? Est-ce que c'est une question de génération? Il y a encore de fait une popularité évidemment qui existe en faveur du président Vučić.
Oui, alors il y a ça, cette fracture urbain rurale, ça c'est sûr que c'est très fort. Donc il y a Donc il faut savoir que progressivement, le parti au pouvoir a vraiment pris le contrôle de la plupart des médias. En fait, aujourd'hui, il y a une ou deux chaînes qui sont indépendantes et encore qui sont pas tout le monde a accès à ces chaînes de télévision-là. Il y a beaucoup de personnes âgées aussi. Donc c'est vraiment, en fait, et c'est pour ça en fait que les gens manifestent de manière assez massive devant la radio-télévision serbe pour demander une couverture beaucoup plus objective des manifestations.
Eh bien, merci beaucoup Tara Mirovic. Vos reportages sur le mouvement de contestation en cours en Serbie, c'est à lire sur le site du Courrier des Balkans. On va continuer à suivre ce qui se passe en Serbie. Je signale que le Courrier des Balkans organise ce samedi à Arcueil des rencontres littéraires. Il y aura notamment une table ronde consacrée à ce qui se passe actuellement en Serbie, à Belgrade, avec notamment deux étudiants qui arrivent exprès, tout juste, qui sont rentrés avec vous pour parler de la situation sur place. Merci d'être venu dans le Retour de terrain.
Merci à vous.
Novine kod frizera na dve strane Emina Jahović kaže da je Vuk ima šamana. Mislila je da je vrabac, ali je Vuk šaman. Tvrdi tako šaman je od Gwyneth Paltrow drugo. Kako interesantno je. A šta sam ja, nemam šamana. I jebi ga, nemam šamana. A šta sam ja, nemam šamana. Jebi ga, nemam šamana. Možda sam ptica. New York, London, Berlin, Paris. Serem se na ljude, serem se na stvari. Znamo da je sreća kada userete ptice. Ja sam ptica, donosim sreću. Ja sam ptica. Možda sam pas. Slušaj kako lajem. Kupuju me ljudi, vode me, čipuju, sterilišu me, peru mi zube. Mora da sam pas. Prijateljica sam najbolja u kraju. Možda sam medved, osloni se na mene sa ti. Veruj mi sve, veruj mi sve. Baby don't worry, you know that you got me. Stabilna sam kao medved. Osloni se na mene dok sanjam u zimski san.
La chanteuse serbe Konstrakta, de son vrai nom Ana Djuric, ancienne représentante de la Serbie au concours de l'Eurovision, élue personnalité de l'année en 2022, très populaire en Serbie et dans tous les Balkans. C'est avec sa voix que l'on quitte les Balkans direction la République démocratique du Congo.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui s'exprimait ce mercredi 29 janvier, quelques jours après la prise de la ville de Goma, dans le nord Kivu, par le groupe armé M23. Le dirigeant a ouvertement accusé son voisin, on vient de l'entendre, le Rwanda, de soutenir les rebelles et d'opérer directement sur le territoire congolais. Des accusations qui ne sont pas nouvelles. L'implication du Rwanda au Kivu et son soutien à des groupes armés est également dénoncée par l'ONU. La prise de Goma près d'un million d'habitants, apparaît comme un camouflet pour Kinshasa, dont les troupes se sont révélées incapables d'empêcher l'avancée des rebelles. Le président Tshisekedi promet déjà une contre-offensive, mais les racines du conflit sont complexes, alimentées par la corruption, les trafics, la prolifération de groupes armés qui exploitent les mines d'or et de coltan, sans oublier l'histoire de la région marquée par le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Quelles sont désormais les intentions du M23 et de ses soutiens? La prise de la ville marque-t-elle un tournant dans le conflit entre la RDC et le Rwanda? Quelle perspective de médiation régionale et internationale? On en discute avec nos invités. Joanne Tilwin, journaliste à Africa Intelligence, spécialiste notamment de la République démocratique du Congo. Et avec Christophe Vogel qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes chercheur sur les dynamiques de conflits en Afrique centrale, ancien enquêteur pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous êtes avec nous à distance depuis Dakar. Je voudrais qu'on commence par un point sur la situation. Joanne Tilwin, que sait-on des conditions dans lesquelles la ville est tombée aux mains du M23? On a pu entendre dans des reportages ici ou là que les combats avaient été extrêmement rapides et que les moyens militaires étaient sophistiqués. Que sait-on de ces conditions-là et évidemment des conditions de vie aujourd'hui pour les civils?
Oui, l'assaut a été relativement foudroyant en fait, avec un dispositif de la Rwanda Defense Force qui a été particulièrement conséquent, avec notamment des équipements militaires sophistiqués et de l'envoi de troupes au sol, des forces spéciales qui ont pénétré sur le territoire congolais de manière très disciplinée et très efficace.
La Rwanda Defense Force, c'est une force officielle
c'est l'armée rwandaise.
Du Rwanda.
C'est l'armée rwandaise, ouais, tout à fait. Et donc, ils ont d'abord lancé plusieurs assauts où il y a eu de la résistance, et avant de véritablement pénétrer en force avec une puissance de feu contre laquelle ni les FRDC, donc l'armée congolaise, ni les groupes armés qui sont des supplétifs de l'armée congolaise ont pu résister. Et donc, ils n'ont pas pu faire face. Et donc, la ville est tombée relativement rapidement. Ce qui était assez prévisible et attendu, puisque ça faisait plusieurs mois que le dispositif du M23, appuyé par les forces armées rwandaises, avait la capacité de s'emparer de Goma.
Mais alors, puisque la chute était prévisible, comme vous le dites, comment expliquer que les forces armées de la RDC aient échoué à empêcher la chute de la ville, puisque justement elle était redoutée? Est-ce qu'ils étaient peu, mal préparés, en infériorité militaire? Est-ce qu'il n'y avait pas la volonté de tenir la ville? Comment on explique qu'elle soit tombée si vite?
Les forces armées congolaises ont beaucoup de difficultés systémiques, en fait, dans leur structuration, dans leur équipement, dans le règlement des soldes. Etc. Donc ça a été très difficile. C'est très difficile pour eux. Il n'y a pas beaucoup de motivation et ils n'ont pas fait montre de ces trois années depuis le début de la reprise du M23. Ils n'ont pas eu la capacité ni parfois la volonté est là, mais c'est difficile pour eux d'intervenir. En fait, du coup, le système congolais s'est beaucoup reposé sur des groupes armés supplétifs, donc à la fois des groupes armés locaux, Mai Mai, ou des groupes armés d'origine rwandaise, des reliquats, des FDLR, donc un groupe armé qui est d'inspiration génocidaire, qui ont fait le travail. Ce sont eux qui se sont véritablement battus et qui ont défendu la ville. Ce sont des combattants aguerris, mais pauvres, pas très bien équipés, et qui, pour la partie congolaise de ces combattants, agissent véritablement pour défendre leur terre. Mais face à une telle puissance de feu, ils n'ont pas pu faire face. L'autre acteur, ce sont ces instructeurs, mercenaires, instructeurs roumains qui avaient été contractés par Kinshasa, par le pouvoir congolais, pour former l'armée. Et ils avaient également pour mission, en cas d'attaque de la ville de Goma, de défendre. Après, d'autres acteurs étaient présents, donc il y a la force de la MONUSCO et la force de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe.
Toujours sur Goma, Christophe Vogel, votre écho de votre côté, quelles informations avez-vous sur la façon dont les combats se sont déroulés, la façon dont la ville est tombée, la situation aussi? Aujourd'hui, on parle de l'électricité toujours coupée, l'eau également pour les habitants. Quel est votre regard un peu sur les mêmes questions de l'état de la situation?
Alors évidemment, il y a un souci majeur qui d'ailleurs aussi a des impacts humanitaires très graves pour les hôpitaux d'Angoma et dans les alentours, ce qui est lié à ces coupures d'électricité et d'eau qui n'ont pas été totales à 100% les derniers jours, mais quand même très considérables. Et en ce qui concerne l'évolution plutôt militaire, on est témoin d'une percée du M23 accompagnée par des éléments de l'armée rwandaise depuis dimanche après-midi, qui s'est passé tout au début dans un calme où il y avait pas directement une grande résistance, mais c'est surtout à partir de lundi matin jusque plus ou moins mercredi matin que il y a eu des combats assez acharnés dans différents endroits de la ville qui ont eu comme résultat évidemment une victoire relative du M23 et ses alliés, mais il faut aussi souligner que jusqu'à ce stade-là, on ne peut pas dire que la ville de Goma est à 100% sous contrôle rebelle, notamment à cause des poches de résistance qui continuent à exister, notamment par cette collection de groupes armés loyalistes au gouvernement congolais qu'on appelle communément les Wazalendo, c'est en swahili le pluriel pour les patriotes. Et puis, mais au finish, la situation d'aujourd'hui est telle que le M23 sort quand même vainqueur relatif de cette offensive et en plus a continué à déployer des unités au littoral du lac Kivu en direction sud vers d'un côté la ville de Bukavu et avant cela encore l'aéroport de Bukavu qui est situé à Kavumu.
Bon, on va en parler justement, mais visiblement l'offensive ne va pas s'arrêter à Goma, mais je laisse Marion Dupont poser une question.
Et justement, pour continuer sur ce sujet-là, le fait qu'il y ait un nouveau front qui soit en train de s'ouvrir dans la province du sud Kivu, Joanne Tilwin, cela intervient 6 mois après que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, donc la MONUSCO, ait annoncé son désengagement dans cette région du sud. Pourquoi est-ce que ce retrait avait été décidé?
Le retrait, en fait, la MONUSCO est dans une phase de retrait à la demande des autorités congolaises. Donc, ils ferment de plus en plus de positions. Et que la situation dans le sud Kivu avait été estimée à peu près apaisée, entre guillemets, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, c'est clairement une cible du M23. Le M23, les membres du M23 ne s'en cachent pas, l'assument et annoncent leur intention militaire de descendre et de s'emparer de Bukavu. Ils ont déjà une présence sur l'île de Minova. Et donc Bukavu est une cible à la fois stratégique pour continuer l'expansion territoriale, mais également c'est une manière aussi de sécuriser et d'empêcher une riposte à travers le Burundi, qui est un allié de Kinshasa, l'un des derniers alliés de Kinshasa, et qui est un pays qui entretient des relations extrêmement hostiles et tendues avec le Rwanda. Donc c'est aussi dans cette perspective d'essayer de verrouiller cette position. Il n'exclut pas, par ailleurs, par la suite, de descendre encore un peu plus au sud, notamment dans la province du Tanganyika, ou là, au bord du lac Tanganyika, ce qui permet d'avoir une autre voie d'accès vers la Tanzanie.
Le coordinateur de la plateforme Alliance Fleuve Congo, qui est une plateforme à laquelle appartient le M23 il y a quelques jours, Corneille Nanga, a déclaré à Goma, nous sommes à Goma pour y rester et nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Christophe Vogel, comment interpréter cet appel à marcher jusqu'à Kinshasa? Est-ce que c'est une réelle intention du groupe? On est quand même à 10 milliers de kilomètres de la capitale congolaise. Ou bien est-ce que c'est une manière de poser un rapport de force, de montrer une détermination? Comment est-ce que vous l'interprétez?
Alors c'est certainement une annonce qui illustre un peu le goût du M23 après les succès que le mouvement a eu les dernières semaines d'aller plus loin. C'est aussi surtout une référence historique à 1996 où un mouvement rebelle qui s'appelait AFDL, sous commandement de Laurent-Désiré Kabila à l'époque, et soutenu aussi par le Rwanda et l'Ouganda, a justement réussi à prendre contrôle de l'est du pays qui à l'époque était encore le Zaïre et qui a fini dans une campagne militaire qui a duré moins d'un an de s'emparer du pouvoir dans le pays entier. Est-ce que cela est réaliste dans le court terme? C'est plus difficile à dire, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend pas seulement de la capacité de résistance des forces congolaises et leurs alliés, ça dépendra certainement aussi de la volonté régionale des uns ou des autres de justement aller plus loin et de mettre aussi la pression sur le gouvernement congolais, mais aussi de la réaction plus large régionale, africaine et internationale. Telle que les choses se présentent actuellement, on voit quand même que sur le plan militaire, la plupart des batailles pour l'instant sont gagnées par le M23 et ses alliés. Ceci dit, ouais, ça reste assez ouvert si une tentative plus large de prendre le pouvoir dans le pays entier va avoir lieu ou pas.
Joanne Tilouine, quelle est la position officielle du Rwanda sur la situation au Kivu? On l'a rappelé en introduction, sa présence a été documentée par l'ONU. Vous le disiez vous-même, les forces rwandaises étaient là lors de la prise de Goma. Si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui Kigali nie déployer officiellement des forces aux côtés du M23. Est-ce que cette position a évolué? Est-ce qu'on est dans quelque chose de désormais plus ouvert? Et évidemment, la grande question, c'est quel est l'intérêt stratégique, quelle est l'intention aussi politique, militaire du Rwanda dans la région du Nord Kivu et peut-être demain du Sud Kivu?
Alors, la posture du Rwanda au sujet de la situation dans le Nord Kivu, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est assez claire, c'est-à-dire que c'est avant tout un problème de Congolais, que le M23, selon le pouvoir rwandais, est un mouvement congolais qui se bat pour notamment rétablir de l'ordre, mais aussi pour rétablir les droits d'une communauté qui est de facto et effectivement très marginalisée, qui sont les Tutsis congolais. Pour Paul Kagame, il est également absolument insupportable, et ça, là-dessus, le Rwanda est inflexible, mais c'est insupportable de voir des reliquats des FDLR, donc de ces mouvements armés opposés à Kigali, mais d'inspiration génocidaire. Il est absolument inconcevable et insupportable de les voir se régénérer avec en étant associés par le système congolais, par le pouvoir congolais, à l'effort de guerre. Et donc de combattre côte à côte avec des soldats et de l'armée congolaise. Ça, c'est quelque chose qui convoque les mémoires, qui convoque quelque chose de très fort et de très puissant du côté du Rwanda.
C'est considéré comme une menace existentielle.
Oui, alors elle est peut-être, on passe peut-être du côté un peu irrationnel, parce que de facto, les FDLR aujourd'hui, c'est quoi? C'est 300 hommes, les CRAP, c'est leur troupe d'élite, c'est ce qu'on appelle.
Pas plus de 300 hommes?
Honnêtement, c'est très dérisoire, ça ne menace pas la puissance rwandaise qui est extrêmement installée, très forte, très efficace, mais par contre, c'est d'un point de vue symbolique, d'un point de vue mémoriel, en fait, c'est insupportable. Et le fait que le président Tshisekedi du Congo ait laissé ses militaires associer pleinement ces éléments de FDLR à la guerre contre le M23 a complètement radicalisé la position rwandaise également. À cela s'ajoute, il y a beaucoup d'autres éléments purement stratégiques, c'est-à-dire que c'est une zone où il y a trop de groupes armés, trop de désordres, trop de menaces sécuritaires pour le Rwanda. Et par ailleurs, le tout, c'est quand même qu'il y a une défiance et une crispation telle que entre Tshisekedi et Kagame, que c'est devenu quasiment personnel. C'est-à-dire que pour le Rwanda, Tshisekedi a franchi la ligne rouge et doit être déstabilisé.
Marion Dupont.
Joanne Tilwin, ça, ce sont bien sûr des éléments très importants. De nombreux experts et spécialistes dont vous faites partie soulignent aussi le fait que la région du Nord Kivu est très riche en ressources minières et que le Rwanda participe à son exploitation par l'intermédiaire de ses forces, de cette présence armée. Qu'en est-il réellement ?
Alors, je vais peut-être juste pour faire tourner la parole, laisser réagir Christophe Vogel.
Oui, d'autant qu'il est spécialiste.
Voilà. Sur les deux questions, peut-être Christophe Vogel, à la fois la question, le nœud de la question de la présence des FDLR et de la menace que ça représente pour le Rwanda, puis ensuite sur la question minière.
Oui, ce sont des questions très très centrales au dossier, non seulement les derniers jours, mais aussi dans un contexte plus large historique. Je pense que sur la question des FDLR, il y a beaucoup d'incompréhension, dans le sens que le côté congolais est très clair sur le fait que le Rwanda utilise les FDLR comme un prétexte pour intervenir, influencer, voire déstabiliser l'Est du Congo. Le côté rwandais, comme ça a déjà été expliqué, voit évidemment les FDLR dus à sa généalogie et son histoire comme les successeurs des forces génocidaires, donc à la fois l'ancienne armée rwandaise, mais aussi les milices Interahamwe qui étaient fortement impliquées dans le génocide contre les Tutsis. Je pense il y a lieu à appréhender cette question un peu plus délicatement parce que c'est pas une question oui ou non ou et ou c'est plutôt une question que les deux points de vue sont quelque part vrais parce que si on regarde l'historique des FDLR, ils sont issus des acteurs armés formels et informels qui ont croisé la frontière après le génocide, qui étaient à l'époque estimés à environ 80 000 personnes en armes. Aujourd'hui, on parle de quelques centaines. Personnellement, j'ai tendance d'aller quand même peut-être vers un millier parce qu'ils ont quand même profité du soutien récent de l'armée congolaise pour recruter davantage. Mais ça reste évidemment, même si c'est 1000 combattants, ça n'a rien à voir avec 80 000 en termes de chiffres. Néanmoins, du côté rwandais, il y a aussi cette perception que les FDLR et aujourd'hui quelques centaines ou même un millier de combattants, tant que à travers leurs forces ou commandos spéciales, ils sont capables de même organiser des minuscules attaques sur le territoire rwandais, ce qui s'est quand même encore passé quelques fois les dernières années. Ça reste une menace qui est pris très en sérieuse, notamment parce que aussi le contrat social politique au Rwanda entre gouvernement et population repose aussi sur une promesse totale du gouvernement de pouvoir sécuriser le territoire et la population sans aucune exception. Donc là, pour clarifier qu'il n'y a pas juste une réponse à cette question FDLR et il y a plusieurs points de vue qui ont leur propre logique à eux. Pour ce qui est des ressources naturelles, la question minière, évidemment, le M23 a notamment pris contrôle d'une zone minière assez importante, zone d'exploitation de coltan, donc le produit brut qui est utilisé pour faire du tantal, à Rubaya, donc c'est au nord Kivu, c'est environ 3-4 heures en voiture selon l'état de la route et la météo depuis Goma.
Excusez-moi Christophe, juste préciser que ce minerai est aujourd'hui un minerai stratégique puisqu'il permet d'alimenter les batteries des ordinateurs, des téléphones portables, etc.
Oui, alors il permet d'alimenter il est essentiel pour produire des conducteurs pour les batteries. On est plus sur le cobalt qui est exploité aussi, dont le Congo est le plus grand producteur mondial, mais dans une région qui est très 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 loin de la région en conflit, donc ça n'a rien à voir. Pour revenir, à l'exemple du coltan. Le groupe d'experts des Nations Unies a récemment estimé que le M23 est capable d'extraire des rentes assez importantes. En même temps, comparé avec l'économie politique globale de la RDC, voire de la région de l'Est, le facteur des minerais est régulièrement surestimé dans son impact sur les dynamiques de conflit, aux dépenses évidemment des dynamiques historiques et politiques, et aujourd'hui fortement polarisées et personnalisées aussi. Donc il y a aussi lieu peut-être de souligner que d'un côté, comme d'autres parties en conflit, une insurgence armée, une rébellion va rarement dire non à des possibilités de créer des revenus pour soutenir l'insurgence, mais de dire que le M23, voire le Rwanda serait principalement motivé par les ressources naturelles, c'est un cliché qui malheureusement se tient depuis des décennies dans les débats publics, notamment occidentaux, sur le conflit.
Joanne Tilwin, votre regard sur cette question, la question de l'exploitation minière, c'est une donne du problème qu'on surestime pour comprendre ce qui est en train de se jouer. C'est un effet collatéral, d'une certaine manière, de quand on s'empare d'un territoire et que on va pas refuser d'en exploiter les ressources, ou c'est quelque chose de plus important que ça. Comment est-ce que...
Non, je partage pleinement l'analyse de Christophe Vogel. Je pense que c'est largement amplifié, mythifié, que c'est un vieux récit journalistique qui me semble totalement suranné, voire anachronique. On n'est plus du tout sur ce type de dynamique. Aujourd'hui, il faut c'est ôter en fait à des acteurs qui combattent, donc qui risquent leur vie, d'avoir une véritable réflexion et d'avoir des convictions en fait. Et le M23 ne combat pas du tout pour mettre la main sur des minerais. Comme l'a dit Christophe, s'ils ont l'opportunité de faire du business, ils le feront. Mais c'est pas du tout la motivation première. Et que ni pour le Rwanda, qui par ailleurs peut capter les richesses bien autrement, et les captait déjà, et les capte. Ils continueront de les capter tant que la RDC n'a pas un système financier bancaire qui soit assez efficace et sophistiqué. Les actifs, le fruit de l'activité minière passe en grande partie dans les circuits financiers rwandais déjà. Et le Rwanda s'inscrit plutôt dans une logique de trader plutôt que d'exploitant, de traitant de ces minerais.
Alors, la situation, on le disait au début, entre les deux dirigeants, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, aujourd'hui est extrêmement tendue. Un sommet a été organisé cette semaine par la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, avec un résultat visiblement assez mitigé. Les deux dirigeants ne s'y sont pas rendus. Pourquoi cet échec, et qui aujourd'hui est en mesure de mener des opérations de médiation du conflit, Christophe Vogel?
Alors cela est très difficile, ça remonte un peu aux pourparlers qui ont été facilités en Angola, à Luanda, par le président angolais, et qui ont pris fin temporairement en mi-décembre, donc directement avant la dernière offensive du M23. Dû à un désagrément, donc il y avait déjà en quelque sorte un brouillon d'un plan où les deux États se sont plus ou moins implicitement engagés à travailler ensemble sur certains points, donc la question des FDLR qui est très importante pour le Rwanda, mais aussi la question d'un possible retrait de la part rwandaise. Au final, ces négociations ont temporairement, parce que il faut espérer que des pourparlers reprennent, que ça soit à Luanda ou ailleurs à un moment donné, mais ont temporairement échoué parce que le Rwanda a beaucoup insisté sur le fait que Kinshasa doit négocier directement avec le M23, ce qui est pour le gouvernement congolais inacceptable. Et ceci dit, on a observé en parallèle du sommet EAC à Nairobi aussi une rencontre bilatérale entre le président congolais et le président angolais. Et cela reflète aussi un peu les failles peut-être géopolitiques qui se présentent ces derniers jours entre à la fois l'EAC qui semble avoir une tendance plus amical vers le Rwanda, qui est un membre fondateur de ce bloc régional, et la SADC qui est historiquement plus alignée avec le côté congolais. Et cela se reflète même sur terrain avec une mission de maintien de paix en 2023 déployée par l'EAC, qui a été par la suite terminée après que le gouvernement congolais avait souhaité qui quittent, justement parce que ces forces étaient considérées trop complaisantes envers le M23. Et en revanche, la mission régionale qui a remplacé celle de l'EAC, qui est celle des États de l'Afrique australe, est justement considérée ou était considérée dès son déploiement comme une force hostile par le Rwanda.
Ce qui signifie qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs neutres dans la région, ce qui complique les possibilités de médiation, si je comprends bien ce que vous dites.
Exactement. Après, il ne faut pas non plus être totalitaire sur cette question, parce qu'évidemment, à l'heure actuelle, avec les développements sur terrain, il est justement plus important que jamais que des acteurs, des nouveaux acteurs ou des acteurs qui ont été déjà impliqués dans différents processus puissent regagner une position justement de confiance mutuelle pour déplacer les désagréments du champ de la bataille, du champ de bataille à une table de négociation quelconque.
Marion Dupont.
Oui, Christophe Vogel. Ce dimanche 26 janvier, lors du Conseil de sécurité sur les affrontements autour de Goma, donc aux Nations Unies, la Chine a pris ouvertement position. Son ambassadeur a demandé à ce que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma. Il y a aussi l'installation de la nouvelle administration Trump qui est toujours en cours. Est-ce que ce changement de la donne à l'échelle internationale pourrait faire avancer les choses en termes de médiation ?
Christophe Vogel.
Ah oui, désolé. Oui, évidemment. Évidemment, on a vu dans les épisodes passés du conflit, lors de la première prise de Goma par le M23 en 2012, mais aussi déjà avant, parce que le M23 est quelque part aussi un successeur à d'autres rébellions qui ont existé avant, notamment le CNDP de 2005 à 2008 et le RCD de 98 jusque 2003, où à différents points dans l'histoire, des positionnements ou voire des pressions internationales ont eu un impact sur le déroulement et le comportement des acteurs en conflit. Pour l'instant, on se trouve encore dans une phase où la plupart des acteurs puissants, surtout au niveau international, que ça soit la Chine, que ça soit aussi les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, donc les membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi le bloc africain au niveau du Conseil, se sont limités à une rhétorique. Donc il n'y a pas encore de pression tangible sur aucun des acteurs ou des protagonistes centraux du conflit, ni les États, ni non plus les acteurs non étatiques impliqués. Et donc il est pour l'instant difficile à dire justement si une potentielle future pression, que ça soit sur n'importe quel des acteurs ou sur tous les acteurs à la fois, pourrait justement renforcer cette tendance de retourner à la table de négociation.
Kinshasa aujourd'hui demande des sanctions contre le Rwanda pour avoir enfreint l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Quelles sont ses chances de l'obtenir, Joanne Tilwin? Et pour revenir justement sur les réactions de la communauté internationale, si elle existe, depuis quelques jours.
Ben, Kinshasa est en position d'infériorité dans les négociations aujourd'hui, de par la...
Au niveau militaire.
D'un point de vue militaire, mais aussi diplomatique, puisqu'on se rend compte que le jeu diplomatique a changé et en ce moment semble plutôt défavorable à Tshisekedi au niveau régional. La rencontre, effectivement, il s'est tourné voir son homologue angolais, João Lourenço, la rencontre s'est pas forcément déroulée comme le souhaitait le président Tshisekedi, qui espérait une aide, un appui. Tandis que sur les blocs régionaux, en effet, aujourd'hui, cet après-midi, il y a la SADC qui se réunit au Zimbabwe, à Harare, qui va se prononcer sur la RDC. Pendant ce temps-là, l'EAC, en conclusion de son dernier mini-sommet, a demandé une rencontre SADC-EAC commune. Donc, ce qui pourrait éventuellement équilibrer pour...
Donc là, on parle des différentes forces régionales, la communauté des Afriques de l'Est, celle qui est menée plus par l'Afrique du Sud.
Absolument.
Voilà, dont on disait tout à l'heure que les uns et les autres peuvent avoir des biais, soit pro-Kigali, soit pro-Kinshasa.
Voilà, ce qui pourrait équilibrer s'ils arrivent à faire un sommet commun. Maintenant, tout cela risque d'arriver à une forme de paralysie, en fait, technocratique et diplomatique à la fois régionale. Le timing, je pense, n'a pas été laissé au hasard par le président Paul Kagame pour cette offensive par le M23. On est dans une transition entre deux administrations américaines et c'est néanmoins, voilà, c'est la posture de Washington qui pèse le plus dans la région et qui est capable de véritablement être éventuellement un game changer. Donc pour l'instant, tout le monde est un peu paralysé par cette transition d'administration. Dans le même temps, il y a l'Union européenne qui se mobilise aussi avec certains membres de l'Union européenne qui sont très déterminés pour défendre et pour et plaident pour des sanctions à l'égard de personnalités clés du Rwanda. Donc il y a notamment la Belgique qui est en pointe là-dessus. Maintenant, tout cela s'équilibre et se neutralise par les jeux diplomatiques et les différentes alliances. La France est particulièrement à la fois stratégique, importante, mais également, de par sa proximité ça, avec le président, avec le régime rwandais, avec le pouvoir rwandais, se trouve dans une situation qui l'empêche de mener à bien une diplomatie saine. Elle est plutôt dans une diplomatie d'équilibriste, en fait. Voilà.
Au-delà de ça, est-ce qu'elle a les moyens de faire pression d'un côté ou d'un autre? Est-ce que la France est aujourd'hui un acteur qui compte ou qui, ouais, qui est plutôt... Il faut rappeler qu'il y a eu des attaques contre l'ambassade française à Kinshasa cette semaine. Est-ce que vraiment la France est la bienvenue pour... Est-ce qu'elle a son mot à dire sur ce qui est en train de se passer?
La France a son mot à dire. Elle tient la plume au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC. Elle a son mot à dire, bien sûr. Maintenant, cette région du monde est un miroir aussi des nouveau rapport de force, de ce que certains appellent le nouveau monde, et dans laquelle effectivement les puissances occidentales sont déclinantes comme la France, et qu'on voit apparaître d'autres puissances émergentes et d'autres rapports de force, et que c'est aussi cette guerre entre le Rwanda et la RDC, c'est aussi une guerre entre deux systèmes, entre un système, une démocratie dysfonctionnelle, ratée, corruptive, etc., et un système autoritariste, visionnaire, plus ou moins éclairé selon les points de vue qu'on a, mais extrêmement efficace et très technologique. Donc tout cela se retrouve également dans ces bouleversements qu'on a au-delà de la région et dans le monde.
Et on essaiera de revenir évidemment sur la situation au Kivu. On n'a pas pu aborder tous les aspects, toute la complexité, mais peut-être qu'on aura pu éclairer ce qui est en train de se passer et les enjeux de ce qui est en train de se passer en ce moment. À Goma, merci à tous les deux.
Terembi, terembi, ni du tiwele. Terembi, terembi, ni du tiwele. Gwe metene. Tembi, ni du mabekongo, ni la moye. Nadungo, nadungo, tembi wali, nila moye. Nadungo, nadungo, tembi wali. Modo nangu nutitere, wangu nutembi kaya. Modo nangu nutitere, tembi kaya, wangu nu tembi kaya. Mono da be momo, onzo nimo, ombi.
La chanteuse congolaise Céline Banza, et qui est également vidéaste, auteure, compositrice, performeuse et qui a remporté en 2019 le prix Découverte RFI. Merci infiniment à nos deux invités, Joanne Tilouine et Christophe Vogel, pour leurs éclairages sur la situation au Kivu. Merci également Marion Dupont. Lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série consacrée aux villes face aux risques climatiques. Nous reviendrons sur la situation à Los Angeles en proie à des incendies historiques. Nous parlerons des villes européennes face aux inondations, des capitales latino qui doivent gérer les pénuries d'eau, et enfin des villes côtières en Asie face à la montée des océans. Un dernier petit mot pour remercier Christine Angers, notre stagiaire, dont c'est le dernier jour aujourd'hui, et à qui on souhaite bonne route pour la suite. Et dans un instant, les Midi de Culture.